au 99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Claude Fournel.
C'est lundi, ben oui, nous sommes le 1er décembre. J'espère que vous avez passé une belle journée. À l'émission aujourd'hui, Isabelle Magnan et Manon Saint-Hilaire, elles sont de la Fondation du Collège L'Assomption. Il sera question d'une campagne de financement là, pour la rénovation de la vieille chapelle. Avec Pierre Paquette, on se pose la question, le Parti libéral du Québec serait-il devenu une succursale du Parti libéral fédéral? Pierre-Luc Bellerose sera avec nous, maire de Joliette. Il sera question d'une foule de nouveaux projets là, pour la municipalité. Guillaume Dénommé, producteur et promoteur du Masqui Jazz, sera avec nous. Le Masqui Jazz qui tenait sa deuxième édition en fin de semaine. Nicolas Dufour, maire de Repentigny, qui vient d'être nommé préfet de la MRC de l'Assomption, sera également avec nous. Mais pour débuter, Martin Bordelot, qui est passé de maire de Saint-Côme à boulanger de sa municipalité depuis le 1er août dernier. Michel Arnois s'entretient avec lui là, pour parler de cette transition qui est tout à fait hors norme, faut le dire.
Est-ce qu'on peut dire que vous êtes passé de maire de Saint-Côme au père de la boulangerie de Saint-Côme?
Bon, on peut dire ça. On peut dire ça. En fait, c'est une institution depuis 1943, donc on est vraiment content là, d'avoir acquis ça, ma conjointe et moi, le 1er août dernier.
Comment ça l'idée vous est venue? Premièrement, êtes-vous boulanger?
Non, je suis pas boulanger. J'ai eu une formation, en fait, avec M. Lajeunesse, l'ancien propriétaire qui était là pendant 40 ans. Donc, M. Lajeunesse m'a formé. Il y a des employés qui sont là aussi. Donc, fait qu'on a eu une formation de 2 mois sur les produits qui sont là, qui font la renommée de la boulangerie depuis ses débuts. Et puis, ben là, au fur et à mesure, on apprend. Puis, on s'entoure de gens compétents.
Comment l'idée vous est venue?
Ben écoutez, ça fait longtemps, là, ça fait... J'étais même pas maire, et puis j'ai tout le temps pensé que la boulangerie, c'était une institution à Saint-Côme, l'ancienne boulangerie qui, malheureusement, a passé au feu en 2014, de l'autre côté du chemin. Puis quand j'ai vu l'an dernier que la boulangerie était à vendre, là, j'ai entré tout de suite en contact avec M. Lajeunesse, puis on a commencé à regarder là, s'il y avait des possibilités. Après ça, on s'est dit, bon, on est fou, quelle sorte de rêve qu'on a là, est-ce que ça nous tente réellement? Et puis là, ça nous sortait plus de dans la tête, fait qu'on a dit, oui, on continue, on va de l'avant. Fait que comme je disais, c'est une institution, là, c'est bien plus qu'un commerce, c'est là avec une renommée, il y en a de moins en moins. Avant, il y en avait dans tous les villages des boulangeries, hein, il y en a de moins en moins.
Vous auriez pu vous tirer dans vos terres, prendre une retraite bien tranquille. C'est pas Martin Bordelot, ça?
Non, c'est pas Martin Bordelot. En fait, premièrement, j'ai 50 ans, donc j'avais pas l'âge de prendre une retraite, mais j'aurais pu faire autre chose. Là, on s'est acheté de l'ouvrage pratiquement 7 jours sur 7. Là, vous comprenez qu'on a des journées de préparation, si on veut être prête. Donc, nos produits, on est ouverts du jeudi au dimanche inclusivement, mais nos produits, ben il faut les faire aussi en dehors de la production. Donc, on travaille, puis on est en train de... Il y a un petit café qui vient de rentrer, le Combe Café qui est là. Fait qu'on est vraiment content, là.
Faites encore de la musique?
Non, je fais plus de musique. En fait, c'est mes chums, les gars d'Hommage aux aînés, les gars et Louise. Puis peut-être une fois à l'occasion, mais je fais plus de musique. Là, vous comprendrez que je me lève à l'heure que je me couchais il n'y a pas longtemps. Là.
C'est quand même particulier. Est-ce que vous allez apporter la touche Martin Bordelot à la boulangerie? Allez-vous développer de nouveaux produits ou vous en tenez vraiment aux valeurs sûres?
Ben écoutez, les valeurs sûres, c'est primordial. C'est clair qu'on touche pas à ça. Tout ce qui fait la renommée depuis le début de la boulangerie, c'est les recettes originales qui vont perdurer, qui vont continuer. On commence à teinter ça un peu à notre couleur parce qu'on offre d'autres produits. Pâte au poulet, pâte au saumon. Il y avait déjà les tourtières, mais là, on remet d'autres produits. On remet d'autres sortes de desserts, des pâtisseries. En fait, pizza froide qui s'en vient, peut-être des focaccia. On est en train de tester tout ça, là, nos farines, nos pâtes aussi. Là, donc, on veut tranquillement mettre des nouveaux produits, mais on veut pas s'embourber de nouveaux produits non plus. Il y a quand même une vocation, il y a quand même des produits qui sont là, donc on veut se tenir dans cette gamme-là.
Le fameux pain de fesse là, qui est vraiment reconnu.
Le fameux pain de fesse, les fameuses brioches, les beignes, les chômeurs à crème. En fait, il y a des gens qui partent de partout pour venir chercher ça. Là.
Ce qui est extraordinaire, là, c'est cette transition-là. Comment les gens ont reçu ça? Comment les gens... de la communauté, là, quand ils vous voient, ils vous connaissent comme maire, quand ils arrivent à la boulangerie, c'est quoi la réaction?
Bien, en fait, l'accueil est super bon. On le voit là, depuis le début, depuis le mois d'août où on est commencé. Là, il y a beaucoup de gens qui sont contents, qui sont surtout contents que cette institution-là puisse perdurer, continuer.
Et appartenir à quelqu'un de la région.
Oui, absolument. T'sais, moi, je suis natif de Saint-Côme, donc c'est ce qu'on entend. Les gens sont contents que ça soit repris par une autre génération de personnes de Saint-Côme aussi. Là.
Parlant de génération, est-ce qu'il y a de la relève? Est-ce qu'il y a... Il y a des petits bordelots qui pointent, qui vont s'occuper de la boulangerie également?
Ben écoutez, les petits bordelots sont là, là sont aux études, sont en pleine adolescence pour mon fils, pour le plus jeune. Donc pour le moment, il y a pas de, on n'est pas prêt à passer à bord. On vient de l'apprendre, ça fait 3 mois. Donc, mais oui, il va venir travailler. Mon fils va venir, ma fille a déjà un travail puis est aux études aussi. Mais oui, il y a de l'intérêt, c'est sûr.
Vous m'avez parlé tantôt d'un café, voulez-vous élaborer?
Ben en fait, on a un espace qui a été aménagé. On loue un espace à quelqu'un qui s'occupe de son café. Elle est barista, elle fait elle-même. Elle s'est acheté un torréfacteur, elle fait elle-même la torréfaction de son grain vert. Donc on vend du café. Elle vend du café là en sac moulu ou en grain ou des cafés cappuccino allongés, des lattés. Donc
à consommer sur place.
À consommer en take-out par contre. Okay. Oui, il y a pas de
possibilité. C'est formule pour apporter.
C'est formule pour apporter, exactement. Ouais.
Il y a des projets d'expansion ou il est trop tôt pour en parler?
Il est trop tôt pour en parler, oui. On est en train d'exploiter à sa pleine valeur là, puis à son plein potentiel, mais il n'y a pas de projet d'expansion à court terme.
Ça, c'est une question difficile à répondre, c'est la dernière. C'est quoi votre produit favori à vous, à la boulangerie?
Ben écoutez, moi je vous dirais que tous les produits sont bons. On peut pas dire le contraire, mais en fait le pain est excellent. C'est un pain qui est un pain à l'eau. Là, il y a beaucoup de gens qui viennent en chercher parce que ce pain-là, il y a pas de lait, il y a pas donc il y a des personnes qui viennent en chercher avec des intolérances au lactose ou autres. Bon, le fameux pain fesse, écoutez, c'est succulent. Les brioches qui sont là depuis le début, les beignes, tout est bon.
Martin Bordelot, maintenant boulanger, merci.
C'est un grand plaisir, Michel.
Voilà, il est 16h13, c'était Martin Bordelot, ex-maire de Saint-Côme et maintenant boulanger du côté de Saint-Côme. Dans un moment, le maire de Repentigny, Nicolas Dufour.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 $ en prix avec les 3 jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer! As-tu ta carte? Bingo!
La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net. et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Les soldes fous sont commencés chez Jean Coutu. C'est le moment idéal pour faire plaisir à vos proches et à vous aussi. Des offres à ne pas manquer, disponibles pour un temps limité seulement. Jusqu'à dimanche, les brosses à dents électriques Oral-B sélectionnées sont à $49,99 chacune. Et de vendredi à dimanche seulement, obtenez une carte cadeau Jean Coutu de $15 pour chaque $75 d'achat de cosmétiques. Profitez des soldes fous chez Jean Coutu. Certaines conditions s'appliquent. Détails à jeancoutu.com.
Messe de Noël à Sainte-Béatrix. Célébrons ensemble la magie de Noël le mercredi 24 décembre à 16h30 au 861A rue de l'Église. La messe sera présidée par Monseigneur Gilles Lussier, accompagné d'une chorale. Bienvenue à tous.
Besoin d'une sieste profonde? Étendez-vous sur votre nouveau matelas confortable de chez Ameublement SJ Dion. Ameublement SJ Dion, c'est 3 étages de meubles, matelas, électroménagers et des articles pour décorer les pièces de votre maison. Nos conseillers en ameublement ont un talent naturel. Ils trouveront le beau qu'il vous faut. Ameublement SJ Dion, 1 rue Gautier Nord à Notre-Dame-des-Prairies. Chez nous, c'est tellement chez vous depuis 60 ans. 450-759-1409.
Vieillir chez soi, c'est précieux. Chez Aide à domicile d'Autré, nous sommes complices de votre qualité de vie en vous offrant un accompagnement chaleureux, professionnel et à faible coût. Entretien ménager, préparation de repas et courses, nous sommes là pour vous permettre de demeurer dans le confort de votre domicile aussi longtemps que possible. Nos services s'adressent aux personnes aînées ou en perte d'autonomie dans toutes les municipalités de la MRC d'Autré. Parce qu'un quotidien plus doux fait toute la différence. Contactez Aide à domicile d'Autré au 450-404-2219, poste 2.
Lanaudière PM,
Politique municipale.
Il est 16h16. Le maire Nicolas Dufour de Repentigny vient d'entamer un premier mandat de 2 ans à titre de préfet de la MRC de l'Assomption. Choix unanime de ses pairs, M. Dufour et la MRC ont des enjeux de taille à gérer. Le transport en commun, la crise du logement, mais aussi une mise à jour du schéma d'aménagement du territoire, comme il le précise à notre collègue Régent Turgeon.
Monsieur Nicolas Dufour, nouveau préfet de la MRC de l'Assomption. C'est ce qu'on voulait.
Oui, et c'est une belle marque de reconnaissance de la part de mes 4 autres collègues maires. L'entente qu'on avait avec Sébastien Nadeau dans le premier mandat, c'est qu'il faisait 4 ans à titre de préfet. J'étais préfet adjoint. Et ensuite, là, dans le deuxième mandat, si on était réélu, là, je prenais la préfecture pour 4 ans.
C'est un choix unanime de vos collègues à ce moment-là.
Oui, effectivement, ça a été un choix unanime, là, c'était clair. Là, on avait déjà des discussions un peu avant la fin de la campagne électorale, là, si j'étais reconduit dans mes fonctions. Donc, une belle reconnaissance de la part de mes collègues.
C'est pour 2 ans d'abord?
Oui, ben là, on a pris la décision de... parce que chaque MRC au Québec se doit de décider si elle fait un mandat de 4 ans ou 2 fois 2 ans. Et nous, de notre côté, on a décidé de faire 2 fois 2 ans. Okay. Mes collègues m'ont dit là, qu'ils souhaitaient que je poursuive pendant 4 ans, mais on s'est dit, prenons un premier 2 ans là, pour voir comment ça fonctionne.
Préfet suppléant, ça va être qui?
C'est Sébastien Nadeau qui a été choisi à titre de préfet suppléant.
Les priorités là, au niveau de la MRC... On parle de transport, crise du logement, les infrastructures. C'est pas les dossiers qui manquent.
Non, puis on a beaucoup d'enjeux en commun. Un des dossiers qu'on a délégué aussi au niveau de la MRC, c'est le développement économique. On a plusieurs projets de développement économique, autant à l'Épiphanie, à Repentigny, à l'Assomption. Il y a aussi des projets à Saint-Sulpice, là, en récréotourisme et développement économique. Donc, ça va faire partie de nos dossiers. Le transport en commun, effectivement, c'est un des enjeux qui nous touche tous parce que la congestion routière touche l'ensemble de la MRC.
Un autre bête mort peut-être pour les MRC, un schéma d'aménagement du territoire. On en est où pour la MRC de l'Assomption? Parce qu'il y a des contraintes à développer un schéma d'aménagement.
Ouais, puis là-dessus, la MRC de l'Assomption a toujours été exemplaire et je salue mes prédécesseurs parce que on a toujours été dans les MRC qui avaient les plus récents schémas d'aménagement. Là, on s'en va bientôt sur le schéma d'aménagement de 4e génération, alors qu'il y a beaucoup de MRC au Québec là, qui sont encore à leur schéma de première génération qui date des années 80. Donc, la MRC de l'Assomption a toujours été très avant-gardiste dans ce domaine-là. Puis on voit aussi les enjeux d'urbanisation là, qu'on a dans nos 5 municipalités, mais il y a une très bonne collaboration là.
Est-ce qu'on est dans le milieu du dernier schéma d'aménagement ou si on pense déjà le renouveler?
Oui, on est en train de finaliser le 3. On est à la fin de la vie utile du 3e schéma d'aménagement, puis bientôt on va commencer les travaux là, pour le 4e, celui de 4e génération.
À Repentigny, votre administration, M. Dufour, a décrété un moratoire de 90 jours sur la création d'une ceinture verte dans le secteur Le Gardeur. Est-ce que c'est un concept, ça, qui est appelé à prendre de l'ampleur, la ceinture verte?
Ben, à vrai dire, on va prendre le temps de bien analyser les choses et de continuer à faire les démarches au niveau de la ville, mais il faut que j'envoie ce message-là à Francis là, qui s'est déclaré porte-parole là, du regroupement qui est composé de lui-même. Il faut faire attention quand on parle de ce type de dossier-là parce que là, on est en train de parler de on veut aménager des terrains que la ville ne possède même pas. C'est des terrains qui sont de propriété privée. Alors, c'est bien de rêver. Je suis bien d'accord avec ça. On a vu dernièrement que Francis était rendu à vouloir aussi acheter l'île Bourdon puis aménager l'île Bourdon, mais on peut pas aménager un terrain qu'on ne possède pas. Alors, laissons les équipes de la ville terminer les travaux. Puis déjà, à la prochaine séance du conseil, on va pouvoir donner un peu plus les enlignements là, sur la suite des choses là, avec la ceinture verte.
Ça relance un dossier de la protection de l'environnement, quelque part, dans un contexte de changement climatique et de pluie diluvienne ou de sécheresse?
Bien, tout le monde est pour la protection de l'environnement au conseil municipal de Repentigny. Là, personne ne remet ça en cause, bien au contraire. Maintenant, c'est comment on le fait et surtout avec quel argent. On a des priorités à Repentigny, là, puis on parlait justement des pluies du 9 août. Bien, nos priorités, c'est de refaire nos aqueducs, nos rues, nos stations de pompage pour être sûr et certain d'être résilient au niveau climatique. Alors, avant de commencer à acheter des terrains un peu partout, sans plan de match, là, il y a des priorités à Repentigny, puis on investit dans les priorités.
Comme préfet de la MRC de l'Assomption, vous allez siéger à la table des préfets de Lanaudière. Des attentes particulières par rapport à cette instance gouvernementale, si on peut dire?
Ben oui, parce qu'on a travaillé notamment dans les 4 dernières années avec la table des préfets et le gouvernement du Québec, les orientations gouvernementales en matière d'aménagement du territoire. Ça fait partie de notre mission et de nos enjeux. Moi, je crois beaucoup à la table des préfets de Lanaudière parce que ça représente bien notre région. C'est un beau véhicule pour faire entendre nos besoins, nos priorités. On a des enjeux qui touchent toute la région de Lanaudière, qu'on pense à la santé, l'éducation. Donc, c'est une belle porte là, pour une belle porte d'entrée auprès du gouvernement pour faire des revendications.
Question que je ne peux pas passer sous silence. Souhaitez-vous le retour du maire de Joliette, Pierre-Luc Bellerose, comme préfet de la MRC de Joliette, à la table des préfets?
Ah, totalement, puis on travaille dans ce sens-là. Je connais bien Pierre-Luc depuis des années, là, donc c'est sûr qu'on va travailler à s'assurer là, qu'il réintègre la table dans l'honneur et la dignité.
Est-ce qu'on doit lui proposer quelque chose pour l'attirer, le faire revenir dans le giron de la table des préfets?
Non, je pense que plus par rapport à la mécanique de travail, là, donc c'est de revoir comment on est en mesure de tous travailler. Puis il y a aussi des nouveaux joueurs autour de la table, des nouveaux maires qui se sont fait élire, des nouveaux préfets, préfets adjoints un peu partout dans la région de Lanaudière. Fait que je pense que le changement de garde là, peut aider là, à la réintégration de Joliette.
Une nouvelle dynamique?
Oui, exact. Donc, cette nouvelle dynamique avec des nouveaux joueurs peut aider.
Repentigny, la MRC de l'Assomption, on est toujours sur la couronne nord de Montréal. Il faut adhérer à la communauté métropolitaine de Montréal. Repentigny va être là. Les enjeux là, pour votre administration puis vos collègues de la MRC par rapport à la CMM?
Bien, ça va être de voir tout le déploiement qui va se faire du plan d'aménagement métropolitain et de développement parce qu'il faut se rappeler que en matière d'aménagement du territoire, il y a la ville, ensuite il y a la MRC, ensuite il y a la communauté métropolitaine de Montréal et finalement il y a le gouvernement du Québec. Beaucoup trop de paliers, tant qu'à moi, au niveau décisionnel, ce qui nous coupe un peu dans notre autonomie municipale. Mais bon, on est pris dans la CMM, c'est la loi depuis 2001 et ce qu'on va vouloir s'assurer, c'est que le nouveau plan d'aménagement va se traduire dans une densification qui va être plus douce puis qui va être raisonnable à la hauteur de ce qu'on est capable d'encaisser à Repentigny, dans la MRC de l'Assomption, d'intégrer. Donc, ça va être s'assurer là, d'une modélisation qui va être à l'avantage de notre MRC plutôt que de se le faire imposer par Montréal.
Avez-vous l'impression que, justement, la représentation de la Couronne Nord MRC va être plus forte et peut-être plus proportionnelle qu'elle l'était avant? Là, est-ce qu'on peut faire une différence dans le choix décisionnel à la CMM?
Ben, à vrai dire, ce qui est vraiment l'élément qui change la dynamique, là, c'est la nouvelle loi 104 là, qui a été adoptée par le gouvernement du Québec, qui retire un peu de poids décisionnel à Montréal. Donc, Montréal a perdu 2 sièges dans le collège électoral, ce qui permet un meilleur équilibre, mais surtout une meilleure représentation de la nouvelle démographie, parce que les clés de partage des votes, si je peux m'exprimer ainsi, ont été décidées en 2001, n'avaient jamais été revues, mais le Grand Montréal n'est plus ce qu'il était en 2001. Les couronnes se sont énormément développées dans les dernières années. On a accueilli beaucoup de population. Donc, au niveau démographique, on a un poids plus important, ça ne se reflétait pas dans le système de votation. Là, au moins, avec la loi 104, là, on vient corriger cette erreur-là. Et je pense que ça va changer la tonalité et le type de discussion qu'on a à la CMM.
Voilà, c'était Nicolas Dufour, maire de Repentigny, qui vient d'être nommé le préfet de la MRC de l'Assomption.
L'anneau d'IRPM. Culturel.
Hier, en fin d'après-midi, se concluait la 2e édition du Masqui Jazz du Bal Masqui à Ville-Saint-Gabriel et Michel Arnois était sur place et s'est entretenu avec Guillaume Dénommé du Bal Masqui.
Qu'est-ce qu'on peut tracer comme bilan de cette 2e édition?
Michel, on a eu énormément de belles musiques. Je pense que c'est ça à la base, le projet, avoir de la musique de haute qualité, des musiciens exceptionnels. Mais en plus de la musique, on a eu de l'amitié, de la chaleur. Des gens se sont rencontrés de jeudi à dimanche soir. Il y a des gens qui venaient ponctuellement pour certains spectacles, mais il y a des gens qui revenaient à tous les jours. Et il y a eu beaucoup d'amitié, beaucoup de plaisir et le plaisir de se rencontrer, d'écouter de la musique vivante en personne avec d'autres êtres humains autour de nous.
Tu me racontais qu'il y avait un spectacle ce dimanche à 11h et une autre à 16h et qu'il y a des gens qui sont
qui ont été là de 11h, de 10h30 finalement jusqu'à 18h.
Il y a des gens qui ont passé la journée avec nous aujourd'hui, dimanche, mais hier soir, il y a des gens qui étaient même là hier soir. Hier soir, on a eu un spectacle de 3h qui s'est fini à 11h le soir, même près de minuit. Et il y a des gens qui sont arrivés ce matin qui se disaient exténués par le spectacle de la veille, mais qui étaient là fidèles au poste parce que, je sais pas, il s'est créé quelque chose. Les gens avaient le goût d'être avec nous tout le week-end.
Vous êtes en train de changer la donne parce que habituellement, à Saint-Gabriel, on roule les trottoirs à 18h, mais là, vous faites veiller les gens tard, bravo!
On fait notre possible pour faire des expériences uniques, originales, de qualité. Et puis oui, Saint-Gabriel mérite ça. C'est pas parce qu'on est en milieu rural, c'est pas parce qu'on est à Saint-Gabriel qu'on mérite pas d'avoir les meilleurs musiciens au Québec, le meilleur festival jazz possible et qu'on aille, qu'on vive des expériences uniques ensemble ici. On est très heureux d'offrir ça aux gens de chez nous.
On finit toujours par en parler un peu de l'aspect financier. Vous réussissez à faire vos frais, vous faire un peu de profit. Comment ça se déroule de ce côté-là?
Je dirais qu'on a des beaux appuis qui nous aident, notamment la MRC d'Autré et les caisses du Nord de la Naudière, les caisses des Jardins du Nord de la Naudière. Ça nous aide, mais on se contre pas d'histoire. On fait pas vraiment... on fait pas d'argent avec ça. On est là pour vivre une expérience avec les gens d'ici, nous mettre sur la carte de la musique, et qu'il y ait le plus de gens possible qui viennent nous voir et des gens de la place qui en profitent. Mais c'est pas une question d'argent. C'est vraiment une question de s'amuser et de vivre des expériences ensemble.
Il y aura une troisième édition?
C'est garanti qu'il y a une troisième édition. On est déjà en train de réfléchir la suite. Et il y a trop d'enthousiasme pour que ça s'arrête tout de suite.
Le prochain grand événement ici au Balmaski, ce serait quoi?
Ben, on a deux beaux événements en décembre. Un autre événement à jazz, en fait, c'est un bonus. Le saxophoniste de renommée internationale, Yannick Rieux, qui ironiquement, habite à Saint-Gabriel.
C'est sérieux, là?
C'est très spécial. Yannick Rieux qui fait le tour. En fait, il est en Chine en ce moment pour faire une grande tournée en Asie et en Chine. Et puis, il était triste de rater notre festival. Il va venir ici le 12 décembre au Balmaski, Yannick Rieux en quartet. Et puis ensuite, on a un spectacle, disons, party de Noël, mais un party de Noël un peu, j'allais dire, révolutionnaire, très contemporain, avec un groupe engagé qui s'appelle Excavation et Poésie. Et puis, par la suite, il va y avoir Olivier Soucy et Émilie Métrique, qui est un DJ qui va faire de l'électro-trad. Fait que c'est vraiment une fête trad, mais à la sauce très moderne, le 19 décembre au Balmaski.
De l'électro-trad, c'est à surveiller. Écoutez, on vous félicite pour cette deuxième édition. Vous êtes satisfait de la réponse du public?
On est dépassé par l'enthousiasme des gens, la réponse des gens. On a fait des salles combles, on a eu des gens qui en revenaient pas qu'on offre cette qualité de musique-là à Saint-Gabriel, puis ça nous motive pour la suite.
Merci.
Merci Michel, merci à CFNJ d'être partenaire de l'événement.
Voilà, c'était Guillaume Dénommé, là, qui est promoteur du Maski Jazz, qui tenait sa deuxième édition en fin de semaine. Il est 16h28.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686, parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Métropolitaine pour Charles de Gaulle, ça se présente quand même assez bien. À peine un peu nombreux, le secteur Henri-Bourassa. Traversée facile vers la rive nord. Repentigny, 40 Est, on circule sans problème. Pont-le-Gardeur, approche facile autant par Sherbrooke que par Notre-Dame. 25 Nord, un peu dense depuis le boulevard Lévesque à Laval. Et ce, jusqu'à environ 500 mètres passé la jonction avec la 440. La traversée facile vers l'île Saint-Jean et Terrebonne. Pont Sophie-Masson, c'est un peu lent à l'approche, sinon ça va bien pour franchir la rivière des Belles-Îles et finalement autoroute 640. Entre la 25 et la 40 en direction ouest, un peu dans le secteur de la montée des Pionniers. Sinon, en direction ouest, on roule sans problème. Les nouvelles dans un instant avec Pierre Jubinville.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 $ en prix avec les trois jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer! As-tu ta carte? Bingo!
Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ. À Saint-Édouard-de-Masquinongé, Quincaillerie Dépanneur 348, à Saint-Angèle-de-Prémont, Épicerie Jacques-Lessard, à Saint-Ursule-Dépanneur Marie-Lou, à Saint-Alexis-des-Monts, Dépanneur Beaussoir, à Saint-Paulin Boucherie 4 Saisons et à Louisville, Tabagie Grand-Père, Dépanneur Régional et Dépanneur L'Escadre. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Si l'un de vos proches semble en détresse, ou que vous-même pensez au suicide, de l'aide existe. Communiquez avec le 1-866-APPEL. Parler, c'est le premier pas pour aller mieux. Un message du gouvernement du Québec.
Bonjour, c'est Kim de Joliette Nissan. Découvrez pourquoi Nissan est la marque numéro 1 pour la qualité des véhicules neufs selon J.D. Power. Prenez le volant d'un Kicks S 2026 à traction avant, location 60 mois, à partir de seulement 89 $ plus taxes par semaine, sans aucun comptant initial. Joliette Nissan, parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
En manchette, il est 16h31, un retour au bureau 5 jours semaine pour les employés fédéraux. Il sera question également de l'insécurité alimentaire, un problème bien réel et une grève possible des pilotes d'Air Transat. Pierre Jubinville, tout d'abord, on va parler de ce petit remaniement ministériel du côté d'Ottawa.
Oui, il fallait remplacer Stephen Guilbeault. Alors, on a nommé le député montréalais Mark Miller au poste de ministre de la Culture et responsable des langues officielles. Pour lui, c'est un retour au cabinet. Son collègue Joël Lightbound ajoute à ses responsabilités celle de lieutenant du Québec. Il était déjà ministre d'approvisionnement des travaux publics. Et pour sa part, la ministre de l'Environnement et des changements climatiques, Julie Dabrowsen, s'occupera aussi des dossiers liés à la nature.
Grosse question, est-ce qu'on va convaincre Pierre-Luc Bellerose de retourner à la table des préfets de la Naudière?
Ça a l'air que non.
Ah bon? OK. Il y a tout un travail à faire.
Oui, c'était le dîner du maire à la Chambre de commerce du Grand Joliette, au Château Joliette, ce midi. Michel Arnois s'y est rendu. Plusieurs sujets ont été évoqués, dont l'expansion d'Hydro-Joliette et justement de ce sujet des préfets de la Naudière.
C'est un Pierre-Luc Bellerose animé d'une belle énergie qui a fait le tour des grands dossiers de sa ville. Parmi ceux-ci, l'augmentation de la puissance d'Hydro-Joliette.
Puis nous, ce qu'on demande, c'est d'augmenter la capacité énergétique actuelle, qui est de 80 MW.
Donc, augmenter minimalement de 50 % supplémentaire.
C'est ce qu'on souhaite, oui.
Concernant la patinoire sur la rivière L'Assomption, le maire désire définir une nouvelle entente avec ses partenaires.
Peut-être d'avoir quelque chose de plus court, pas nécessairement sur 7-8 km, avoir une patinoire sur une plus courte distance, avec, du randonnée pédestre ou autre. On est en train de réévaluer ça. On a fait une demande de pays parce que à la base, il faut se rappeler qu'il y a 2 années que ça n'a pas eu lieu parce que Dame Nature n'a pas collaboré. Puis l'autre année, c'est parce qu'on n'a pas renouvelé l'entente.
Concernant la présence de la MRC Joliette à la table des préfets, Pierre-Luc Bellerose ne croit plus à cette structure pour faire avancer les dossiers de la MRC.
Et puis c'est pas d'hier, là, M. Arnois, ça fait longtemps qu'on le dit qu'il y a 2 solitudes, il y a un clivage important entre le nord et le sud. Fait qu'à un moment donné, ça donne rien de chercher des consensus où il n'y en a pas.
Michel Arnois, CFNJ Nouvelles.
Bon, maintenant, Pierre, l'insécurité alimentaire inquiète de plus en plus, particulièrement à l'approche de Noël.
Oui, puis c'est un problème bien réel. L'insécurité atteint maintenant de plus en plus la classe moyenne. On parle d'une augmentation de 82 % en 4 ans. Il y aurait 1 700 000 personnes qui sont en situation d'insécurité alimentaire au Québec. On écoute l'économiste à l'Observatoire québécois des inégalités, Geoffroy Boucher.
On est passé de 8 % en 2018 à 18,5 % en 2023. C'est une augmentation là de 131 %. Parce que les ménages de la classe moyenne ont peu de marge de manœuvre. Une hypothèque à payer, des paiements pour les voitures, des dépenses pour les enfants. Donc, lorsque le coût de la vie augmente, on doit faire des choix.
Et dans une suite logique, quand on parle d'alimentation, on apprend aujourd'hui que le prix du bœuf explose carrément.
N'a jamais été aussi élevé, Claude, et selon les experts, le plateau d'inflation de ce produit ne devrait arriver qu'en 2027. L'effet Trump apporte des éléments de réponse. Sylvain Charlebois, qui est directeur du laboratoire des sciences analytiques à l'Université Dalhousie.
Et lorsque cela arrive, bien sûr, les producteurs vendent leurs animaux à l'encan plus tôt. Mais cette fois-ci, contrairement à 2014, parce que la même chose est d'ailleurs en 2014, cette fois-ci, les producteurs, rachètent pas des animaux ou, augmentent pas leur cheptel du tout.
Et puis finalement, une bonne nouvelle pour les amateurs de ski dans la Naudière.
La station reçoit 1 676 000 $.
De quelle station il est question?
Je ne l'ai pas dit en plus, ça va bien. Ski Montcalm.
Ski Montcalm, oui.
L'aide doit entre autres servir à l'éclairage des pistes et aussi à prolonger la saison par l'expansion du système d'enneigement. La directrice de tourisme de la Naudière, Hélène Desjardins, nous parle ici de l'importance de la station dans le paysage touristique lanaudois.
Ben la station de ski Montcalm,
C'est une station qui est là depuis 1969. Donc, c'est une entreprise familiale. John Barnowski et Johanna, sa sœur Barnowski, qui dirigent la montagne de ski, le font de façon très harmonieuse. C'est une station qui est à proximité aussi du bassin métropolitain. Là, on est à moins d'une heure là, de Montréal, mais aussi à 30 minutes environ là, des banlieues est de Montréal. Alors, ça peut être une belle façon de pratiquer puis d'initier aussi les jeunes familles au ski. Alors, ils ont vraiment l'angle familial. Ils ont développé notamment leur tapis volant, si on veut, pour permettre aux jeunes de qui sont en initiation de gravir la pente et puis de favoriser leur apprentissage en descente douce.
Ouais, faut rappeler que Pierre, bon là, il était question de ski Montcalm du côté de Rawdon, mais il y a 4 stations de ski dans la région de la Naudière, Val-Saint-Côme du côté de Saint-Côme, la réserve Saint-Donat et Garceau là du côté de Saint-Donat.
Hein? Voilà.
Ça fait longtemps que t'as pas fait ski, Pierre, hein, je pense.
Je m'en souviens plus.
Merci Pierre Zubinville, il est 16h36.
La Naudière PM. Claude Fournel. Lanaudière PM, affaires municipales.
Ouais, le maire de Joliette, Pierre-Luc Bellerose, qui prononçait son discours annuel devant la Chambre de commerce du Grand Joliette. Il a été question aujourd'hui de plusieurs projets d'avenir, dont l'expansion d'Hydro-Joliette, la construction de la nouvelle salle de spectacle sur la place Bourget également. Et Michel Arnois a réalisé une entrevue avec le maire Pierre-Luc Bellerose.
Pierre-Luc Bellerose, conférencier invité au dîner de la Chambre de commerce du Grand Joliette. Parlez-moi du projet Jovia.
Projet Jovia, oui, c'est à l'entrée de la ville sur le site actuel de la Chambre de commerce. Donc, c'est un projet plus de 270 unités sur 12 étages. Donc, ça s'adresse principalement à des gens là, comme vous, semi-retraités, avec piscine, où on peut aussi s'entraîner. Donc, voilà.
C'est tout à fait pour moi. Vous avez parfaitement raison. Parlez-moi d'Hydro-Joliette. Qu'est-ce qu'il manque au juste?
Bien, Hydro-Joliette, vous savez, c'est ce qui génère des revenus importants de la ville. On est un des 10 distributeurs au Québec. Donc, ça nous permet de donner un service excellent, pratiquement jamais de panne. Puis en plus, ça nous donne des bénéfices importants. Donc, on parle autour de 5 à 6 millions d'excédents tous les ans qui sont réinvestis dans la collectivité. Donc, il y a peu de villes qui peuvent compter là-dessus. Là. Pour nous, c'est vraiment un atout majeur. Puis nous, ce qu'on demande, c'est d'augmenter la capacité énergétique actuelle qui est de 80 MW pour avoir davantage de projets.
Combien vous voudriez?
Bien, écoutez, on a des discussions parce que c'est pas simple avec Hydro-Québec. Il y avait déjà eu des pourparlers de l'ordre de 30 ou 40 MW. C'est en fonction de ce qui va nous être présenté, mais à tout de moins d'avoir une bonification de ce côté-là.
Donc, augmenter minimalement de 50 % supplémentaire.
C'est ce qu'on souhaite, oui.
En temps de conclu, pour le cabaret de la Fraise, oui. Parlez-moi donc de ça, les tenants et aboutissants.
Oui, bien, c'est une nouvelle salle au centre-ville de Joliette, donc une salle, on peut dire, de spectacle de 300 bancs, 300 fauteuils, qui va aussi servir le communautaire. Nous, la Ville, notre implication, c'est de céder le terrain actuellement qui appartient à la Ville, puis c'est 6 millions sur 20 ans, donc finalement, c'est comme une location, si vous voulez. C'est pas dans l'infrastructure comme telle, mais c'est un service qui va être dispensé. On va avoir le droit à l'accès à 50 salles par année. Donc, c'est vraiment une entente de ce type-là. On n'est pas partenaire dans l'infrastructure comme telle.
Mais ça risque de rembourser l'investissement.
Bien, je pense que c'est une bonne base pour eux. Puis nous, de notre côté, ça vient répondre à des besoins au niveau des salles ou des espaces parce qu'on sait qu'on a beaucoup d'organismes, on a beaucoup là d'événements. Donc, on a une pénurie de ce côté-là. Puis ce qui est étrange à dire, c'est que dans la MRC, on est la ville la plus importante puis on est la seule qui n'a pas nécessairement un vrai centre communautaire. Donc, ça vient aussi répondre à ce besoin-là. Puis ça va mener, encore une fois, là aider beaucoup au niveau de la vitalité du centre-ville par la voie culturelle avec bon la Maison de la musique, le centre culturel, le musée. Donc, ça vient vraiment créer ce quadrilatère culturel-là.
Vous avez fait réagir bien des gens aujourd'hui en parlant de la patinoire.
Oui.
Et vous avez eu une bonne écoute. Vous parliez d'une nouvelle réalité, où on le sait, les conditions climatiques ne sont pas toujours avec nous. Donc, d'une nouvelle réalité, d'une nouvelle entente pour le Festiglas. Vous avez une idée à nous suggérer?
Ben, c'est simple, c'est de revoir, parce qu'on le sait que c'est, ça fait longtemps la renommée de Joliette, c'est de, peut-être d'avoir quelque chose de plus court, pas nécessairement sur 7-8 kilomètres, avoir une patinoire sur une plus courte distance, avec, je sais pas moi, du randonnée pédestre ou autre. On est en train de réévaluer ça. On a fait une demande de pays, parce que, à la base, faut se rappeler qu'il y a 2 années que ça n'a pas eu lieu parce que Dame Nature n'a pas collaboré. Puis l'autre année, ben, c'est parce qu'on n'a pas renouvelé l'entente, qui, moi, je la jugeais insatisfaisante, puis qui était déraisonnable au niveau financier avec Nordico à ce moment-là. Donc là, on est allé en appel pour voir qu'est-ce qui est possible avec les changements climatiques, puis qu'on laisse pas d'argent sur la table. Donc c'est un peu ça là, qu'on est à évaluer.
Moi, j'aimerais que vous me parliez finalement de la table des préfets.
Oui.
Écoutez, vous avez donné un exemple très, très concret. Oui. J'aimerais que vous me répétiez pour le bénéfice de nos auditeurs.
Moi, d'emblée, je pense que pour faire de la concertation, on n'a pas besoin d'une structure avec 15-20 personnes. On est dans une époque où il y a énormément de compression budgétaire, donc on doit investir non pas dans des structures, mais investir en nous. Les villes et les MRC sont outillées pour gérer ces fonds-là. Donc, l'exemple que je donnais au niveau de la concertation régionale, c'est qu'il faut comprendre qu'on est 6 MRC dans la Nausière. Puis je vais prendre l'exemple du campus universitaire. Quand il est venu le temps de se positionner, ben les 2 MRC du Sud siègent déjà sur 2 autres tables. Donc, sur la communauté métropolitaine de Montréal, sur la table de la Couronne-Nord. Et là, leur 3e table, c'est la table des préfets de la Naudière, dans laquelle on était. Et nous, c'est la seule table où on peut se positionner au niveau politique. Mais là, ces 2 MRC-là, c'était déjà positionné en faveur de Terrebonne.
Il avait déjà dit oui en faveur d'une autre MRC.
Oui. Donc, nous, de notre côté, on a dit, bon, on aimerait ça. On veut que ça soit Joliette, puis on veut se positionner. Mais là, on peut pas vraiment. On va être en porte-à-faux avec ce qu'on a déjà exprimé. Fait que nous, ça nous met dans quelle position? Donc, ça, c'est une des raisons pour lesquelles on s'est sorti de cette table-là. Puis je tiens à indiquer que ça ne compromet aucun fonds. Les fonds gouvernementaux, il y a des pourcentages d'établis pour chacun des territoires. Puis c'est vraiment sur une base volontaire. La table des préfets n'est pas une instance comme une ville ou un MRC.
On a pu sentir que vous ne croyez plus à cette organisation-là, là, la table des préfets.
Bien, pas du tout. Puis je pense qu'on a malheureusement instrumentalisé des sommes où on est beaucoup dans les représailles parce qu'on a fait le choix qui est tout à fait légitime de dire, bien, nous, on ne fait plus partie de cette instance de concertation politique. Par contre, ça n'empêche pas qu'il y ait des ententes, que ce soit au niveau du transport, au niveau de d'autres dossiers, d'avoir des ententes ponctuelles, des ententes sectorielles avec les MRC. C'est vraiment cette table-là qui, en plus, coûtait 80 ou 90 000 $ par année. Donc, il y a une économie de ce côté-là, en plus. Ça nous donne accès à tous les fonds, que ce soit au niveau de la Fondation Chagnon, que ce soit au niveau du Fonds québécois en innovation sociale ou du FRR, là, où il y a beaucoup d'argent. On fait partie des comités, là, de comité technique ou autre. Par contre, au niveau politique, on ne croit plus. Puis c'est pas d'hier, là, M. Arnois. Ça fait longtemps qu'on le dit qu'il y a 2 solitudes. Il y a un clivage important entre le Nord et le Sud. Fait qu'à un moment donné, ça donne rien de chercher des consensus où il n'y en a pas.
J'aimerais vous parler du budget, Joliette. Est-ce que hausse de taxes?
On est à finaliser les derniers détails. Comme je le disais, il y a beaucoup de pressions qui sont exercées sur les villes, sur les MRC. On le sait, on pèle beaucoup dans notre cour. Puis contrairement au gouvernement du Québec ou celui d'Ottawa, bien, nous, on doit avoir un budget équilibré. Donc, il faut faire des choix. Puis quand on dit oui à quelque chose, on dit non à une autre chose.
Bon, voilà, c'était le maire de Joliette, Pierre-Luc Bellerose, qui prononçait ce midi son discours annuel devant la Chambre de commerce du Grand Joliette. Il est 16h43. Dans un instant, Pierre Paquette.
Si vous voulez partir, partez, on va barrer les portes.
Salut, c'est la bottine souriante.
Si comme nous, vous êtes du monde de party et que vous voulez un retour bien accordé, n'oubliez pas d'appeler l'Opération Les Rouges au 1-866-DESJARDINS.
Et si vous aimez autant veiller tard que veiller sur le monde, ben on est toujours à recherche de bénévoles.
Si vous voulez partir, Les Rouges vous ramène à la porte.
Une présentation de la Société de l'assurance automobile du Québec, de Desjardins et de cette station.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 en prix avec les 3 jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer! As-tu ta carte? Bingo!
Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ à Saint-Ambroise de Kildare, Garage Omer Grégoire, Dépanneur au Petit Bourgeois, Dépanneur Kildare, Dépanneur Proxy Extra, à Sainte-Béatrix, Boulangerie Sainte-Béatrix, le Dépanneur Lac-Vallée enregistré, à Saint-Ligory, Dépanneur des Rapides, à Lanoraie, Dépanneur 5 Montagnes, Dépanneur La Fortune et Cille, Family Prix Julie Bourgeois, à Saint-Thomas, Arnois Proxy Saint-Thomas, Family Prix Santé Coulombe et Parents, et à La Valtrie, Dépanneur Buissière et Dépanneur Bonissoir sur la rue Notre-Dame. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur la l'appli CFNJ.
18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
CFNJ, avec vous partout, via l'application CFNJ, sur vos appareils Android et Apple.
Écoutons les conseils de Cassandra Lalande, denturologiste.
Saviez-vous qu'un denturologiste conçoit aussi des protecteurs buccaux sur mesure? Étant confectionné avec un système d'aspiration, il permet une protection accrue des dents et des lèvres, en plus de réduire les risques de fracture de la mâchoire et de commotion cérébrale. Étant conçu pour votre bouche, il permet de rester bien en place, ce qui procure un meilleur confort. Il est même prouvé que vous aurez une meilleure oxygénation de vos poumons. Pratiquerez donc votre sport sans désagrément tout en vous protégeant.
C'était un message du Centre de denturologie Cassandra Lalande, 175 rue de la Visitation, bureau 100, à Saint-Charles-Borromée, 450-756-1935.
Vous avez un appétit d'ours? Ouvrez avec fierté votre nouveau frigo de chez Ameublement SJ Dion. Ameublement SJ Dion, c'est 3 étages de meubles, matelas, électroménagers et des articles pour décorer les pièces de votre maison. Nos conseillers en ameublement ont un talent naturel. Ils trouveront le beau qu'il vous faut. Ameublement SJ Dion, 1 rue Gautier Nord à Notre-Dame-des-Prairies. Chez nous, c'est tellement chez vous depuis 60 ans. 450-759-1409.
À CFNJ, voici le commentaire de Pierre Paquette.
Salut, bon lundi, Pierre.
Oui, bonjour, Claude.
On se pose la question ce matin, suite à ce matin, ce qu'on a pu voir dans le journal de Montréal concernant cette quarantaine d'élus et d'employés actuels ou passés du Parti libéral fédéral qui ont contribué à la campagne de Pablo Rodriguez à la chefferie du Parti libéral du Québec. La grosse question, est-ce que le Parti libéral du Québec est en train de devenir une succursale du Parti libéral fédéral?
Bon, pour être très honnête, je pense que non, là. Je sais que le Parti libéral du Québec a énormément de problèmes actuellement. Pablo a des problèmes aussi avec son leadership pour la gestion de la crise actuelle. Mais je vois pas, là, dans ce que j'ai lu dans le Journal de Montréal, de preuves que ça ferait en sorte que le Parti libéral du Québec serait inféodé au Parti libéral du Canada. D'autant plus que le Parti libéral du Canada, maintenant, celui de M. Carney, n'est plus celui de Justin Trudeau ou Pablo Rodriguez devrait. Ouais. Alors, qu'il y a des ministres des attachés politiques qui contribuent à sa campagne, moi, je pense que c'est tout à fait normal. Surtout qu'il y en a plusieurs d'entre eux, surtout je parle pour les attachés politiques, qui ont quitté leur emploi pour aller travailler avec M. Pablo Rodriguez pendant sa campagne.
Parlons-en, Geneviève Hinze, celle qui a tellement fait jaser, qui est une ex-chef du cabinet de Pablo Rodriguez au fédéral, au Parti libéral fédéral. Elle a versé 500 $, elle a donc contribution maximum pour sa campagne à la chefferie du Parti libéral du Québec. Probablement ça qui a commencé à titiller un peu Madame.
Ça m'étonnerait que ce soit ça.
Ça va plus loin que ça.
Je jette pas cette thèse-là. Puis de toute façon,
Madame Marois-Risky, moi.
Ouais, Marois-Risky a pas encore été en mesure de nous donner exactement les raisons. Mm-hmm. Moi, je trouve ça normal que Geneviève Hinze, qui quitte le Parti libéral du Canada pour aller travailler au Parti libéral du Québec avec Pablo Rodriguez et contribuer à la campagne de Pablo Rodriguez. Même chose pour Marie-Laurence Després-Lapointe, qui était sa chef de cabinet comme lieutenant du Québec. Elle a quitté son emploi, elle a contribué, j'ai pas regardé à quelle hauteur, mais ça doit être à l'hauteur de 500 $ aussi, ce qui est le maximum.
C'est le maximum
pour devenir sa chef de campagne à la chefferie. Alors, et il y en a un autre aussi qui avait quitté, qui est retourné depuis ce temps-là au Parti libéral comme chef de cabinet pour le ministère du patrimoine. Mais moi, je trouve ça normal. Tu t'investis dans une campagne, tu y contribues. Je trouve ça tout à fait normal. Quand je regarde globalement les 40 élus conseillers présents ou passés du PLC, ça représentait une toute petite fraction du nombre de donateurs qui ont pu financer la campagne de Pablo. On parle de 835 donateurs. Alors moi, je pense que l'indépendance du Parti libéral du Québec, elle est assurée, Mais ceci dit, le Parti libéral du Québec, avec Pablo Rodriguez, a encore énormément de problèmes, là.
Mais lorsqu'on parle du Bloc québécois et du Parti québécois, on a souvent parlé de vases communicants. Il y a des affinités entre les deux partis. Il y a eu une période un peu plus difficile, faut dire, dans les dernières années, là. Mais on peut se poser la même question aussi par rapport au Bloc et au Parti québécois, là.
La grosse différence qu'il y a, c'est que quand tu es au Bloc québécois, tu ne seras jamais au pouvoir. C'est ça par conviction.
Oui.
Alors que quand tu es au Parti québécois, tu as des chances d'un jour peut-être être ministre. Et c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de députés du Bloc qui cherchent à être éventuellement candidat pour le Parti québécois.
Ou l'inverse comme Yves-François Blanchet.
Oui, Yves-François Blanchet, Serge Ménard, mais souvent c'est parce que ils ont, comment je pourrais dire ça, ils ont fait leur carrière déjà au PQ, leur temps est a passé, puis là, ils veulent continuer à faire de la politique, puis il y a un appel du côté du Bloc québécois. Tandis qu'entre le Parti libéral du Québec et le Parti libéral du Canada, c'est deux partis qui peuvent aspirer au pouvoir. Alors, cette raison-là existe moins, en tout cas, entre le Parti libéral du Québec et du Canada qu'elle existe entre le Bloc et puis le PQ.
On aurait pu se poser la question aussi à une certaine époque, quand Jean Charest est arrivé à la tête du Parti libéral du Québec, est-ce que le Parti conservateur, d'où originait Jean Charest, aurait pu financer aussi sa campagne?
Ben, il y a sûrement des conservateurs qui ont financé la campagne de Jean Charest. Ceci dit, encore une fois, c'est un peu comme pour le Parti libéral du Canada de Carney. Le Parti conservateur, une fois que Charest a quitté le Parti conservateur, ce n'était plus le même Parti conservateur.
Non, c'était plus les progressistes. Là.
Mais je voulais aussi rappeler que Pablo Rodriguez a démissionné comme député libéral lorsqu'il a décidé de se présenter en septembre 2024. Il a été comme indépendant.
On se souvient aussi de sa fameuse traversée là, de la rivière des Outaouais.
Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'il est très conscient du fait qu'il doit garder une distance avec le Parti libéral du Canada. Mais je pense qu'est-ce qui se passe présentement au Parti libéral du Québec et au Parti libéral du Canada, ça ne sera pas trop difficile à faire. Parce qu'avec le départ de Stephen Guilbeault, il n'y a plus juste le Parti libéral du Québec qui a des problèmes, il y a aussi le Parti libéral du Canada.
Ah, ça c'est sûr. Merci beaucoup Pierre Paquette, bonne fin de journée.
Merci, à mercredi.
L'anneau d'IRPM, éducation.
Voilà, il est 16h52. La Fondation du Collège de l'Assomption souhaite amasser un autre $1 million pour mener à bien son projet de rénovation de la vieille chapelle de l'institution. Et il y a la directrice générale de la Fondation, Isabelle Magnan, et Manon Saint-Hilaire, qui est également de la Fondation et responsable des relations avec les anciens et les anciennes, qui ont confié à notre collègue Régent Turgeon que les travaux devraient commencer en janvier prochain et prendre fin au mois de septembre.
Madame Magnan, d'entrée de jeu, nous rappelez... Pourquoi on veut rajeunir là, la vieille chapelle du Collège de l'Assomption?
Alors, la vieille chapelle, c'est un lieu de rassemblement très important pour autant nos élèves que des membres de la communauté. Et avec le passage du temps, le temps a eu ses effets autant sur la structure extérieure que sur l'intérieur. Alors, l'intention, la réflexion elle a débuté en février 2024. Alors, on se souvient que c'est un bâtiment qui était classé patrimonial. Alors, la réflexion elle s'est faite autant sur le volet intérieur que le volet extérieur. Donc, afin d'estimer un peu les besoins et les travaux à venir. Au fil des réflexions, il y a eu quand même un changement important dans la mesure où vous savez que un bâtiment patrimonial peut profiter de subventions importantes. C'était la fin du programme du ministère de la Culture et des Communications, ce qui nous a amené un petit peu à changer notre échéancier, parce que initialement, l'échéancier du collège, c'était de faire les travaux extérieurs. Donc, vraiment, de faire la réfection intérieure pour faire une rénovation intérieure. Dans le contexte actuel, on s'est concentré davantage sur la rénovation intérieure avec l'intention de maintenir le volet historique de notre vieille chapelle. On veut que lorsque les gens vont y entrer, ils soient capables d'y trouver des références à l'histoire qui existe à l'intérieur de la vieille chapelle.
Quand on parle de l'intérieur de la vieille chapelle, on parle des fenêtres, l'électricité, le chauffage, l'isolation, avec le cachet patrimonial à protéger.
Effectivement. Donc, on a déjà des esquisses, des croquis. On arrive vraiment aux plans et devis finaux qui devraient être faits d'ici Noël. Donc, on peut penser que des travaux vont débuter dès janvier. Notamment, on parlait du caractère historique avec un artisan plâtrier pour le plafond, pour conserver encore une fois les beautés des vestiges du passé.
Quand est-ce qu'on pourrait voir la fin de tout ça, là, à ce compte-là?
Alors, le calendrier des travaux, c'est de janvier 2026 à possiblement septembre 2026.
Merveilleux, Madame Saint-Hilaire. La campagne de financement là pour les travaux de rénovation est en marche depuis 2022. Et là, on y va d'une nouvelle offensive avec un objectif ambitieux.
Oui, notre objectif est de 4 millions pour la rénovation de la vieille chapelle. Ce lieu si important pour nos anciens et anciennes du Collège de l'Assomption, pour les membres de la communauté. Notamment, on a un ancien, Monsieur Michel Marcoux. Alors, Eddie, sa conjointe. Monsieur Marcoux est du 123e cours. Pour vous situer, en ce moment, les élèves qui ont entré en secondaire 1 sont du 193e cours. Alors, ça vous situe un peu. Monsieur Marcoux s'est senti interpellé par la rénovation de la vieille chapelle et aussi par le collège. Je pense que son sentiment d'appartenance est grand, comme bien d'autres anciens au collège. Et il a voulu donner 500 000 $ en dons jumelés, ce qui veut dire que tous les dons qui vont rentrer dorénavant à la rénovation de la vieille chapelle seront jumelés par Michel et Eddy Marcoux.
Il vous lance un beau défi dans le sens où il vous dit « Je suis prêt à donner 500 000, mais la Fondation doit aller faire son bout de chemin. »
Effectivement, on a du travail à faire, mais je pense que encore une fois, les gens de la communauté, le sentiment d'appartenance envers le Collège de l'Assomption nous aide beaucoup. Les gens sont généreux, les gens sont sensibles à cette cause-là, et c'est aussi pour l'éducation. Alors, je pense que les gens ont à cœur l'éducation, et dans l'Assomption, c'est un lieu, le Collège de l'Assomption, qui est très important au niveau de la communauté.
Le 500 000, on va aller le chercher à travers des activités de financement, évidemment. Est-ce qu'on a déjà élaboré le programme là en question?
On a un beau courriel qui est parti à nos anciens hier. Alors, on parle de 8 000 personnes qui ont reçu une vidéo qui rappelle l'état actuel de la vieille chapelle et pourquoi on veut le faire, ainsi que le don jumelé de Michel Eddy Marcoux. Déjà aujourd'hui, là, on avait plus de 50 personnes qui se sont manifestées à vouloir donner. Le 21 mars prochain, on a notre événement Vin Fromage, qui est toujours un événement convoité dans la région. Alors, on pense vraiment qu'on va y arriver, que le 500 000 est réalisable pour atteindre 1 million supplémentaire à la rénovation de notre vieille chapelle.
Monsieur, madame, tout le monde là, qui va écouter ce reportage-là peut faire sa contribution. Est-ce qu'on peut contribuer en ligne?
Tout à fait. Alors, sur le site Internet de la Fondation du Collège de l'Assomption, il y a toujours un petit icône là, qui nous permet de cliquer et faire un don. Et sachez que tous les donateurs sont reconnus comme étant des bâtisseurs de notre campagne majeure de financement.
Madame Magnan, au final, on est optimiste?
Mais très optimiste. On se dit toujours que le Collège de l'Assomption joue un rôle important dans la communauté, mais on est très conscient aussi que la communauté nous le rend bien. Donc, la communauté est là pour nous appuyer.
Ben voilà, Manon c'était Saint-Hilaire, oui. Un gros merci.
C'était Isabelle Magnan et Manon Saint-Hilaire de la Fondation du Collège de l'Assomption. Voilà, je vous rappelle qu'on a besoin $1 million. On cherche $1 million pour rénover la vieille chapelle du Collège de l'Assomption. Voilà, c'est déjà tout pour celui qui vous parle. Ici Claude Fournel. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Je salue nos collaborateurs à l'émission aujourd'hui. Michel Arnoir et Jean Turgeon, Pierre Jubinville, ainsi que Pierre Paquette. On est là demain, nous, à 16h pour un autre rendez-vous de Lanaudière PM. Entre-temps, manquez pas Justin Lapierre qui sera là, tiens, oui, pour présenter le 5 à 6 strad, non pas un 5 à 7, mais un 5 à 6. Pourquoi? Parce qu'à 18h, ce sera la première de l'édition 2025 de la série T-shirt Jeans Baskets qui met en vedette la formation Hommage aux aînés. Bonne soirée tout le monde, à demain!